franceinter.fr.
Son petit nom, c'est Physarum polycéphalum, mais nous, on préfère Blob, un organisme primitif unicellulaire, donc d'une seule cellule, jaune et visqueux, capable d'apprendre et de communiquer. Et il est à la une, aujourd'hui.
Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door, all around the wall, a splotch, a blotch, be careful of the blob.
Un extrait de la bande originale du film The Blob avec Steve McQueen, sorti en 1958. Et c'est ce film qui vous a inspiré le surnom de cette drôle de bestiole que vous étudiez, Audrey Dussutour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éthologiste au centre de recherche CNRS sur la cognition animale et vous publiez ces résultats étonnants sur la capacité d'apprentissage et de communication de cet organisme vivant. Avant de nous parler de ces résultats, présentez-nous ce mystérieux blob. Quel est le lien d'ailleurs avec le film, où je cite le synopsis du film, une masse venue d'ailleurs dévore les humains. Dit comme ça, ça a l'air terrifiant. Est-ce que votre blob l'est autant ?
Il n'est pas aussi terrifiant, mais en fait, c'est la façon dont il grossit. En fait, dans le film, c'est un extraterrestre géant et tout gluant, un peu comme notre blob, et il grossit à mesure qu'il mange tous les êtres vivants qui sont à sa portée. Nous, notre blob, il mange que des champignons et des bactéries, mais il grossit aussi, en fait, la cellule double de taille tous les jours. Donc, c'est assez impressionnant. Vous pouvez avoir des cellules qui font plusieurs mètres carrés. Ouais. Et en fait, elles rampent sur le sol, mais très, très lentement, donc c'est pas très effrayant.
Faut quand même bien se rendre compte de ce que vous nous dites. C'est-à-dire que c'est un animal fait d'une seule cellule. Je rappelle que nous, êtres humains, on est fait de milliards de cellules. Là, c'est une seule cellule qui peut atteindre 3 voire 4 mètres de large.
Oui, c'est ça. En fait, c'est une cellule qu'on appelle multinucléée. En fait, elle comprend des millions de noyaux. Donc, c'est unicellulaire parce que c'est une seule membrane, mais c'est limite multicellulaire parce qu'elle a beaucoup de noyaux.
Ah, voilà. Animal étrange. Axel.
Audrey Dussutour, vous étiez passé à la une en avril dernier au moment de la publication de vos précédents travaux. Vous aviez démontré que le blob était capable d'apprendre des choses. Alors, comment on fait pour faire la leçon à un unicellulaire ?
Alors, il faut penser comme un blob, parce qu'il a fallu venir vraiment avec un protocole différent de ce qu'on utilise habituellement chez les animaux. Donc, en fait, pour lui apprendre, on lui demande de traverser un pont pour rejoindre une source de nourriture, qui sont des flocons d'avoine, qui sont son plat préféré. Mm-hmm. Et sur ce pont, on met des répulsifs, qui sont inoffensifs, mais que le blob n'aime pas. Donc, ça peut être de la quinine, de la caféine ou du sel, par exemple. Et au fil des jours, en fait, le blob va s'habituer, il va apprendre, en fait, à ignorer ce répulsif qui est inoffensif. Et c'est comme ça. Et donc, ça prend 6 jours. Parce que le blob avance 1 centimètre à l'heure, donc ça prend un petit peu de temps.
Mais alors, on dit quoi quand on parle du blob ? Parce que j'ai dit animal, je me suis laissé à dire c'est un drôle d'animal, mais en fait c'est ni un animal, c'est ni une plante, c'est ni un champignon, c'est quoi ?
C'est ce qu'on appelle un amébozo. En fait, historiquement, les gens ont pensé qu'il était une plante, puis après un champignon, puis après un animal, puis finalement, ils ont créé un règne rien que pour lui et ses petits cousins qui s'appellent les amébozoa.
D'accord. Alors, Axel, vous démontrez cette semaine qu'une fois qu'un blob a appris quelque chose, il peut transmettre ce qu'il sait à un autre blob. Alors expliquez-nous un petit peu la nouvelle expérience que vous avez menée.
Donc, en fait, les blobs, en général, ils ont la capacité d'être fractionnés en morceaux et de se refusionner. C'est vraiment un comportement qui est très naturel chez lui. Et donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné plus de 2000 blobs à ignorer le sel. Et à côté, on avait un groupe de blobs qu'on appelait des blobs naïfs qui traversaient des ponts sans sel. Et à la fin, au bout de 5 jours, on a mis en contact, en fait, des blobs naïfs et des blobs expérimentés. Et on a testé pour voir si ce nouveau blob gardait toujours, en fait, cet apprentissage. Et nous sommes montés jusqu'à plus de 4 blob naïf et on a pu voir à chaque fois qu'ils avaient les mêmes scores que des blobs complètement expérimentés.
Alors, toutes ces expérimentations que vous faites sur cet unicellulaire, ça a l'air rigolo comme ça, mais en quoi c'est important d'étudier la biologie d'un être vivant qui n'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon comme ceci ?
En tout cas, ça intrigue, hein, ça pique la curiosité, ça c'est sûr.
En fait, ce qui est très intéressant, la grosse découverte, c'est clairement qu'en fait, jusqu'à présent, on pensait que l'apprentissage avait émergé avec les systèmes nerveux. Mmh. Et là, on montre très bien, en fait, l'apprentissage, en tout cas, les processus de l'apprentissage étaient déjà présents chez des unicellulaires qui sont très anciens, parce que le blob, en fait, il a évolué entre 1 milliard et 500 millions d'années, donc ça fait très longtemps. Et ce qui est très intéressant chez le blob, c'est qu'il nous renseigne, en fait, sur les grandes transitions évolutives, puisqu'il est à la fois animal, à la fois champignon, à la fois plante, il est à la fois unicellulaire, multicellulaire, il y a toujours un peu le cul entre deux chaises.
Ouais, j'ose dire. Ces informations, ces connaissances que peut acquérir le blob, comment elles se matérialisent ? Est-ce que vous avez découvert cette information directement dans la cellule ?
C'est le grand mystère actuel. Pour l'instant, on ne sait pas. En fait, le génome du blob, il est connu que depuis 8 ou 9 mois, en fait, fin 2015. Mm-hmm. Et du coup, en fait, on était un peu limité en biologie moléculaire pour aller regarder ce qui se passait dans la cellule. Donc maintenant que le génome est publié, on va pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur, voir si c'est son réseau de veines qui est modifié, si c'est de la transcription qui est modifiée. On va pouvoir faire toutes sortes de tests pour essayer de comprendre où cette mémoire se situe et surtout sous quelle forme.
On en croise où des blobs? Pour les auditeurs qui sont intrigués par cette drôle de bestiole, hein, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cet organisme vivant, où est-ce qu'on peut voir des blobs?
Alors en fait, il y en a partout.
Ah oui?
En fait, surtout dans les forêts, dans des milieux humides, il aime bien ça, mais vraiment, les myxomycètes, c'est sa famille, on en trouve vraiment en Arctique ou dans le désert, mais principalement dans les forêts. Et en fait, vous ne les voyez pas parce qu'ils se cachent, ils détestent la lumière, donc ils sont toujours sous les écorces des arbres ou dans les feuilles mortes. Mmh. Mais on peut en voir certaines fois dans le jardin, au petit matin, et c'est très jaune vif. La plupart du temps.
Vous avez dit que les blobs étaient sur Terre depuis des millions d'années, pourquoi pas 500 millions d'années. Est-ce que les blobs ancestraux avaient les mêmes capacités que les blobs que vous étudiez là dans votre laboratoire, l'apprentissage, le partage des connaissances?
Alors là, ça, on n'en a également aucune idée. Moi, je crois que oui, mais je m'avance forcément. Mais on a retrouvé des fossiles il y a 13 millions d'années de blobs, et en fait, ils ont très peu évolué. En fait, ils évoluent, bien sûr, mais très, très lentement. Donc, on peut supposer que ces capacités d'apprentissage, en fait, étaient déjà là. Puisque, de toute façon, la cellule avait besoin de s'adapter dans l'environnement, de montrer des réponses adaptatives, et du coup, de s'adapter à ces stimulus qui sont répulsifs, mais complètement inoffensifs.
Une dernière question, Axel?
Et oui, on est piqué, on a une grande curiosité. Ah, est-ce que vous avez d'autres capacités étonnantes du blob à nous décrire, là, en une minute?
Alors, on a déjà montré en 2010 qu'il était capable aussi de réguler sa nutrition bien mieux que n'importe quel animal qu'on avait testé jusqu'à présent. Il est capable de résoudre des problèmes de labyrinthe, il est capable d'anticiper des événements douloureux. Donc, en fait, il a quand même pas mal de capacités.
Tout ça dans une cellule?
Tout ça dans une cellule, mais géante.
Et il y a, au niveau de la sexualité du blob, c'est aussi très complexe parce que 700 genres différents. Hein, pour les humains, c'est deux, mais eux, ils en ont 700.
Ils en ont énormément. C'est un peu comme les champignons. Ils ont ce qu'on appelle en anglais des mating types. C'est des types sexuels et ils en ont 720 différents.
Eh ben, ça promet. Merci Audrey Dussutour. Et pour ceux qui souhaiteraient voir à quoi ressemble ce mystérieux organisme blob, eh bien nous avons mis une petite vidéo sur Facebook où on voit l'animal bourgeonner sur des feuilles mortes. C'est donc à découvrir sur le Facebook de La Tête au Carré. Merci Audrey Dussutour et Axel Villard. À demain.
À demain Daniel.